Pour finir, c'est le quatrième point que je voudrais vous soumettre. Je suis un peu long aujourd'hui, en principe je vais un peu moins, mais il m'a semblé que tant qu'à faire, il était mieux de vous donner un peu de matière pour lancer ce travail. Je vais venir évidemment à une question que j'ai évoquée avec Simon tout à l'heure, la question qu'on pourrait appeler le spectateur en excès ou le spectateur supplémentaire. Évidemment, le spectateur supplémentaire, c'est une formule d'allure d'Héridienne. Le supplément de fonction spectatrice. Parce que cette fonction spectatrice que nous allons supposer méthodologiquement qu'elle est suspendue pendant un temps, évidemment, elle va se reglisser, elle se reglisse. C'est tellement évident qu'on va le dire tout de suite, qu'on n'est pas à l'air de découvrir autre chose, comme dit l'Italien. Elle va se reglisser tout de suite, et par plus d'une fente. Alors, deux choses. D'abord, un théâtre sans spectateur, vous avez dit. Un théâtre sans spectateur. Mais c'est toujours un théâtre sans spectateur, sauf. J'en parlais à l'instant dans le cas de Grotowski. Sauf quoi? Alors, je cite au moins trois exemples, quatre exemples, trois exemples de une dérivation. Premièrement, il est très rare, mais ça demandera d'être vérifié. Il est très rare que ce spectacle, que ce travail, qu'il s'agisse du travail ancien, théâtre pédagogique, qu'il s'agisse du travail expérimental très récent, il est très rare que ce travail ne se mette pas par moment à l'épreuve d'une représentation ou présentation. Par exemple, si on prend un exemple, bon, le notoire que Grotowski faisait de temps en temps des présentations à Pontevedra. Voyons. Alors devant un auditoire sélectionné, limité, y a-t-il jamais, et en quel sens, parce qu'il faut aller chercher dans le cadre d'un théâtre plus clinique, plus, je ne sais pas, là j'ai une question que je me pose et que je vous pose, y a-t-il de véritables expériences de théâtre sans aucun spectateur, et en particulier sans aucune représentation? C'est une question que je n'ai pas de réponse, je la... Donc, la représentation ou la présentation qui est en général tout de même faite. Deuxièmement, c'est bien évident, la présence des formateurs ou des maîtres ou des metteurs en scène ou du pédagogue. Alors, on demandera, moi j'ai une question que j'ai à poser, la présence par exemple des maîtres, des formateurs dans le travail pédagogique. La présence du maître de formation, non seulement Grotowski lui-même, par exemple, qui à ma connaissance ne participait pas au jeu qu'il organisait, mais dans un travail expérimental, la présence de celui qui le conçoit ou le dirige ou l'anime, la présence de Brecht, au fond. La pièce didactique, que je sache, il ne jouait pas. Donc, il y a bien là une fonction qu'il faudra dans chacun interroger en se demandant comment les uns et les autres l'assument ou la pensent. Et puis enfin, c'est un cas extrêmement intéressant, je vais essayer de dire pourquoi, dans la fiction de Diderot, comme vous savez, c'est un théâtre absolument sans spectateur, enfin ceux qui se souviennent de ce texte, c'est un théâtre, donc une pièce de théâtre qui est représentée dans une famille, c'est une fiction, hein, une histoire, parce que... C'est ce que Diderot appelle un petit roman, une famille qui se rejoue un événement qui a été très important pour elle, qui se rejoue tous les ans à des fins commémoratrices, dans le même lieu, avec le même costume, en essayant de dire le même texte que ce qui a été dit ce jour-là. C'est une espèce de passage à la limite, hein, d'un théâtre qui serait purement répétitif à quelques nuances près. Certaines sont très importantes parce qu'un des participants, même le participant principal, est mort. Donc on peut pas jouer, il faut bien que quelqu'un vienne jouer son rôle, il faut un acteur. Et puis il y a une autre différence, c'est que cette affaire, si nous la connaissons, c'est parce qu'en fait il y a un spectateur caché qui est l'écrivain de l'affaire, on peut l'appeler Diderot si vous voulez. Hein. Un spectateur caché qui est planqué dans un texte. Donc nous regarderons, si vous voulez bien, comment ça marche dans le texte de Diderot. Comment cette supposition d'une abolition du spectateur a pour contrepartie une présence effective du spectateur. Et puis, c'est là que la dérivation Eisensteinienne a tout son intérêt, parce que Eisenstein, lisant ce texte et le commentant, dans son texte du droit par les Philistins, c'est un texte assez peu connu. J'ai eu la surprise de constater que même Youssef ne le connaissait pas, enfin il l'a lu immédiatement, à peine nous l'avons demandé. Eisenstein considère que la position du spectateur qui n'en est pas, du spectateur qui n'en est pas un, c'est une anticipation de la position de la caméra. C'est-à-dire que c'est ce que deviendra la caméra dans l'histoire ultérieur du théâtre. Et que, donc Diderot aurait en quelque sorte préfiguré, anticipé, imaginé le cinéma, et qu'inversement, le cinéma aurait répondu à une fiction antérieure.